Il est 20h, Aïcha Kotman, le journal.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette semaine, la petite bourgade tranquille de Neuchâtel a été témoin d'un drame tel que Neuchâtel n'en avait pas connu depuis la terrible invasion zombie de 1994. Nous avons pu assister en direct à la chute, à la descente aux enfers de l'acteur pourtant respecté Michael Shannon. Au travers de The Harvest, pour commencer, puis du film de clôture du NIF 2014, The Young Ones, Michael Shannon, qui auparavant nous avait prouvé l'étendue de son talent, a su nous prouver, cette fois, l'étendue de son manque total de discernement par rapport aux propositions que son agent lui soumettait. On se demande ce qui a pu se produire. On suspecte des histoires d'amour, des histoires de drogue, des histoires de mafia, peut-être même. Mais la seule chose à retenir de tout ça, c'est qu'il faudra enquêter et tenter de démêler les fils entremêlés sous nos yeux. Et maintenant, Antoine Villemain avec le palmarès du NIF 2014.
Merci Aïcha. Le Festival international du film fantastique de Neuchâtel a en effet remis ses prix hier soir au terme de sa cérémonie de clôture, avec en grand gagnant Housebound du néo-zélandais Gerard Johnstone, qui a remporté le prix H.R. Giger Narcisse du meilleur film, remis par le jury international. Repartent aussi récompensés Blind du norvégien Eskil Vogd, qui a remporté le Méliès d'argent du meilleur long-métrage européen. Le prix NIF de la critique internationale est revenu à It Follows de l'américain David Robert Mitchell, qui a également remporté le prix de la jeunesse Denis de Rougemont. Quant au prix Imaging de Futur du meilleur production design, il est revenu au dernier Takashi Miike de Molsong, Undercover et Agent Reiji. Enfin, le prix du meilleur film asiatique est revenu au premier film produit au Brunei depuis 1960, Yasmine de Siti Kamaluddin. Quant au prix RTS du public, il a été remporté par What We Do in the Shadows, des néo-zélandais Jermaine Clement et Taika Waititi. On passe maintenant à Yann Rieder pour la météo.
Eh bien, pendant ce NIF 2014, il a fait un temps de merde. Screw you guys, I'm going home!
Ok, maintenant que notre producteur s'est fait la malle, on peut revenir à un ton un peu plus habituel. Voici Nobody Cares, l'émission culturelle des gens qui prennent très au sérieux des sujets dont tout le monde se fout. C'est parti pour notre bilan du NIF 2014! Nous voilà donc de retour avec un ton un peu plus...
habituel.
Ta gueule, Antoine.
Voilà.
Je suis revenu entre-temps.
Oh non, je croyais que tu t'étais cassé.
Non, mon train est dans genre une heure et demie.
Va-t'en, saleté de Genevois. Ok, donc on va faire le bilan du NIF cette fois. Pour vous éviter d'avoir à vous retaper nos émissions précédentes, si tout ce qui vous intéresse sont les points forts du festival, eh bien on va revenir sur nos films préférés.
Mais avant ça, on va peut-être revenir sur les films dont on ne vous a pas encore parlé, qu'on a vu le dernier jour du festival, avec notamment un film très, très années 80, genre de Goldbergs, Rencontre de Carrie Diaries, mixé avec une bonne dose de côte...
N'invoque pas ces noms en vain, s'il te plaît.
Non, ce n'est pas invoqué en vain. C'est vraiment le film le plus 80s que tu peux faire humainement sans générer une faille dans l'espace-temps, je pense.
Oui, ils ont dû bien se faire chier à récupérer tous les props pour pouvoir faire en sorte de rendre ça un peu crédible, d'ailleurs, en parenthèse.
C'est vraiment une production dont au niveau de l'évocation et de la nostalgie 80s, là, vous faites difficilement mieux. Mm. On a du Run DMC, on a des boombox de 4 mètres de long... Oui. Et des gens qui font du ping-pong dans des shorts fluo.
On a des méchants bien méchants, on a des gentils bien gentils.
Attention, vous dites années 80, ping-pong dans des shorts fluo, mais ça peut très bien s'appliquer au catalogue American Apparel.
C'est vrai, mais en même temps, c'est un retour de mode. Enfin voilà, là pour le coup, le film le fait aussi sur le ton de la parodie, par contre, faut bien expliquer.
Ouais, c'est
ah oui, parce qu'American Apparel, ils sont beaucoup trop sérieux.
Ouais.
C'est... Non mais vraiment on est face à un hommage hein, avec Ping Pong Summer. C'est un film qui raconte en gros les aventures d'un petit garçon, enfin d'un petit garçon, d'un jeune homme à la plage. Il est avec ses parents dans le Maryland à Ocean City et il passe ses vacances, il a peur de s'embêter tout seul et il se fait un ami avec qui il va faire du ping pong. Et il va aussi rencontrer...
Je vais donner le nom du héros quand même.
Ah oui, le héros s'appelle Radford Miracle.
Donc Rad Miracle.
Voilà.
Okay,
et après,
wow.
Il se fait appeler Radical Miracle. Donc,
wow.
Voilà, donc si vous voulez bien comprendre l'étendue de la langue dans la joue du réalisateur, qui est d'ailleurs Michael Tully, qui nous offre un panorama assez étendu de son... C'est probablement son enfance qu'il essaie d'évoquer, parce que une telle méthode dans la reconstitution peut venir que de ça, je pense. Un cast avec pas mal de têtes qui font dire « Ah tiens, je connais celle-ci ». Et surtout une personne très connue, c'est Suzanne Sarandon qui a un petit rôle dedans.
Suzanne qui ?
Sarandon. On retrouve aussi Léa Thompson.
Léa qui ?
Dans le genre Nostalgie 80s.
80s quoi ?
On a aussi bien sûr Amy Sedaris, John Hannah.
John Hannah ?
Non, encore qui était dans A Touch of Cloth, donc techniquement...
Et on voit aussi des petits caméos de, par exemple, bah, justement, Amy Sedaris, Jada Friedlander, du monde que vous avez déjà vu si vous regardez un peu la TV, des
c'est
séries
quoi,
TV américaines.
C'est quoi les séries américaines?
Le nif a complètement cassé Aïcha.
Oui, là, il est temps que ça se finisse. Alors.
Ça se finisse, waouh!
Je sais, malheureusement, ça va rester dans le montage, je suis très déçu.
Quoi?
Non, je sais bien que ça va rester dans le montage.
Ah oui, ça va rester dans
le montage.
Ça va te suivre.
Ça va rester sur mon CV aussi.
Ça va te suivre à la Hit Follows d'ailleurs.
Ouais, ouais. Tu seras mort dedans. Ouais. Donc, oui, Ping Pong Summer, c'était très très sympa comme évocation 80s, un peu.
J'ai vu, les rares personnes qui l'ont vu, il était déjà passé à Sundance, il est passé à 2 ou 3 endroits, il va bientôt, enfin, très bientôt sortir, hein, dans 3 ou 4 jours, un truc comme ça. Il y a certaines personnes qui l'ont pas aimé, qui l'ont trouvé un peu mou, genre sur Rotten Tomatoes, il s'était pris quelques merdes, je crois. Sophie Hort avait vu un peu les critiques. En tout
c'est
cas,
vrai qu'il y a des moments un peu de temps mort et tu te demandes ce qui se passe par moment.
Au début et au club. Techniquement, c'est deux grands moments de temps mort, mais à part ça, j'ai vraiment trouvé drôle, j'ai trouvé bien fait. Fin...
Après, c'est assez classique, hein, ça un pitch un peu à la Karate Kid, sauf que là, bah, c'est pour conquérir la fille de ses rêves.
Est-ce qu'il lui fait aussi nettoyer des voitures?
Non, mais il y a. On passe pas loin du.
Il faut viscérer des poissons.
Voilà, c'est ça, on passe pas loin d'un incident d'éviscérage de poissons.
Waouh!
Donc,
c'est un film qui incite à la cruauté envers les animaux.
Ou à la pêche.
Qui en tout cas est complaisante envers cette cruauté, on va dire ça.
Je trouve ça absolument inacceptable, surtout en 2014.
Non, les années 80, t'as dit.
Non, mais.
Donc Ping Pong Summer.
Ah, d'accord, si c'était dans les années 80, c'était.
Oui,
c'était... oui d'accord. C'est...
Zone de nombre, enfin voilà.
Faut dire aussi que Ping Pong Summer est filmé de façon assez jolie. Ça fait très film de vacances, les outils bien dans l'état de la neige des couleurs que dans les.
T'as pas vu mes films de vacances?
I know what you did last summer, Aïcha.
Good, because I don't!
Ping Pong Summer a conseillé si vous aimez bien les films qui évoquent les années 80 avec beaucoup de poésie. J'ai aussi vu Wolf Cop. Alors, c'était un des grands mystères de ce NIF. Mais qu'est-ce que ça va bien pouvoir parler? Ben, oui, c'est évident que c'est énigmatique, hein. Wolf Cop, on se demande tout de suite ce qui se passe. Le héros s'appelle Loup-Garou, mais qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer dans ce film?
Il s'appelle Loup-Garou ou
Werewolf? Loup-Garou, ouais, c'est un film. Alors, c'est un film canadien. Il s'appelle Lou, L-O-U, Garou, comme Garou le chanteur.
J'allais le dire.
Et c'est un film canadien en anglais, donc.
Loup-Garou.
Voilà, donc la référence n'est peut-être pas immédiate pour les anglophones. Pour nous, ça nous a fait juste lever un sourcil dans la salle. Et en gros, c'est un film où un flic se fait transformer en loup-garou. Mais quelle étrange coïncidence.
Ah, bah moi, je t'avoue que quand j'ai vu le titre, c'est pas du tout ce que j'envisageais.
T'envisageais quoi?
Tu te rappelles de Pretty in Pink?
Alors,
non, je pensais que c'était... Oui, effectivement, je pensais à Executive Producer Dick Wolf.
Bah, en l'occurrence, tu as manqué ce qui aurait été la plus belle allusion que je t'aurais faite pendant un film au NIF, parce qu'à un moment, la première scène de transformation, le flic est dans un bar complètement bourré.
Et on voit son pénis.
Il essaie d'uriner, et au moment où il essaie d'uriner, on a un gros plan sur son pénis, qui est la première chose qui se transforme et qui devient...
Et ça donne quoi?
Et ça donne une bite de loup.
Ça donne envie?
Ça donne une bite. Il y a une scène de sexe, notamment avec le loup-garou entièrement transformé et une change-morphe, donc c'est assez... Apparemment, ça donne envie au personnage du film. Je sais pas si ça a beaucoup donné envie dans la salle.
Ça n'a rien éveillé en toi.
D'ailleurs, on n'a pas entendu d'orgasme
parce que,
dans la salle.
Parce que toi, la zoophilie, Antoine, j'ai cru comprendre depuis ces 3 ans qu'on fait l'émission que c'était un peu ton truc, quoi, non? Mais quand c'est à moitié humain, ça marche pas, c'est ça?
Non, mais en l'occurrence, Wolf Cop, c'est un film qui est pas du tout rythmé, qui a beaucoup de problèmes de structure, qui est pas drôle, qui fait vraiment cheap. Bref, Wolf Cop, une comédie policière loup-garesque dispensable.
Non, j'avais pas compris ça.
Mais ouais, vraiment, je me suis endormi devant, quoi.
Tu t'es endormi devant pour de vrai?
Pour un ultra movie, c'est un peu triste quand même.
Tu t'es vraiment endormi devant ou tu dis ça?
À la limite, ouais, non, t'es à la limite de m'endormir devant.
Non, alors dis à la limite de m'endormir, parce que moi, il y a eu des films devant lesquels je me suis endormi, donc on n'exagère pas avec ça.
Et pourtant, c'était même pas un film de minuit. C'était un film censé être un film de minuit, mais il était diffusé à 5h, donc vraiment inexplicable, quoi. Enfin, ça peut être expliqué par le manque de sommeil généralisé toute la semaine, mais enfin...
Non, je crois sincèrement que quand tu t'endors devant un film ou un NIF, c'est pas parce que tu manques de sommeil, c'est parce que le film est à chier.
Mais le manque de sommeil peut aussi être à blâmer, je pense, au NIF. C'est un des endroits où je pense que c'est
pas raisonnable. Avec toute la cocaïne qu'on prend, Antoine.
J'avais oublié Zeta et Isha, mais toi, tu en as utilisé donc du coup pour rester debout et pour aller voir Blind?
Non, j'ai pas eu besoin de cocaïne pour aller voir Blind. Ça rime presque. Oui, on dit Blind... certains voudront nous corriger en disant blind, mais le film est norvégien, donc peut-être que c'est vraiment blind.
C'est toi qui as corrigé Antoine pendant toute la semaine en plus, c'est ça qui me fait plaisir.
De quoi ?
C'est toi qui as corrigé Antoine pendant toute la semaine là-dessus.
Oui, parce que je savais pas qu'il était norvégien. Moi, je ne lis pas les. Je ne me renseigne pas sur les films avant d'aller les voir. Ben non. Qu'est-ce qui vous prend, les mecs ?
J'ai un badge presse, merde !
Vous avez donc aucun professionnalisme ? C'est quoi ça, se renseigner sur les films qu'on va voir ? Et la surprise dans tout ça ? Et la déception dans tout ça ? Et les attentes dans tout ça ? Oui, donc Blind, le film que je suis allée voir dimanche. Samedi, pardon. Oui, voilà, le NIF chez moi, il ne crée pas de fatigue extrême, il crée des problèmes temporels. En fait, non, c'est ma vie qui crée des problèmes temporels de continuité. Bref, donc Blind, c'est un film que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. On voit très rapidement où il veut en venir. C'est un film sur le processus de créativité, entre guillemets.
Donc oui, Blind, c'est un film... Blind est donc un film norvégien, on l'a dit, du réalisateur Eskilvok, qui...
Un nom sans équivoque. Oui, je veux que tu la gardes au montage, celle-ci. Parce que je n'ai plus aucun amour propre.
Qui a pour héroïne une femme qui devient lentement aveugle, qui est devenue lentement aveugle d'une maladie congénitale, et qui, après avoir perdu la vue, reste confinée dans son appartement, dans son vaste appartement en hauteur, dans ce que je pensais assez à Oslo.
Et elle tente en fait de se. Parce qu'on lui a annoncé que petit à petit elle perdrait sa capacité à visualiser les choses.
Elle tente donc de maintenir cette capacité,
en essayant de se représenter les choses de manière aussi précise que possible.
Mais le film ne la suit pas qu'elle, il suit aussi d'autres personnes dont la vie s'entremêle, notamment son mari qui sort de chez elle, qui lui sort pour aller travailler. Et le film suit toute cette relation entre elle et son mari, donc, mais aussi des connaissances, des gens qu'elle a peut-être connus avant et dont les vies s'entremêlent après coup. Et c'est très intriguant la façon dont c'est narré. En fait, c'est un film. Le film révèle pas mal de surprises. Et il y a beaucoup de. C'est un film qui est à la fois sur le processus créatif. Et c'est aussi un film sur les perspectives et les points de vue. On ne sait jamais vraiment ce qui est réel et ce qui ne l'est pas dans le film. Et on comprend rapidement pourquoi, en fait, en le regardant.
Sauf si vous êtes con.
Oui, mais c'est quand même assez évident au bout d'un moment.
Oui, non, mais il y a des gens qui sont sortis de la salle et qui étaient là. Oh mon Dieu, le twist!
Ouais, c'est vraiment une partie du film. On ne peut pas vous la révéler parce que c'est vraiment intéressant de voir le processus être révélé comme ça.
Mais vous le comprendrez, vous.
Mais vous le comprendrez. Blind, c'est
ou sinon, arrêtez
bon,
de nous écouter parce que vous n'êtes pas digne.
C'était un de nos coups de cœur, en tout cas. Un de mes coups de cœur, je sais que c'était un des tiens aussi, du coup.
Moi, j'ai trouvé. Enfin, je ne le mettrai pas dans mes coups de cœur. Je l'ai mis en 5e position des films que j'ai préférés. Donc, non, mais oui, c'était vraiment très beau. Très captivant, j'ai trouvé.
Oui, tu t'emmerdes pas en fait. Le
voilà,
film
tu t'emmerdes pas,
un
c'est
peu
vraiment.
Long, mais même ça passe très vite parce que t'es vraiment intrigué par ce qui va se passer en fait.
Moi, c'est pas tant que j'ai été intrigué par ce qui allait se passer, c'est plus que j'ai été transporté justement dans cette espèce de perspective à mi-chemin entre la réalité et la fiction.
Il y a de ça, il y a aussi une très belle recréation de l'état d'esprit de l'héroïne en fait. Et de son point de vue sur les événements.
Et de tous les personnages, en fait, au final.
Mais tout est très subtil, les personnages ne sont pas du tout caricaturaux.
Et il y a des très belles scènes, enfin, vraiment, moi, il y a des choses qui m'ont énormément touchée dans ce film. Peut-être plus qu'avec les autres films que j'ai préférés, sauf It Follows. Mais non, vraiment, c'est un film touchant, intéressant.
Inventif,
oui, très inventif. Ouais, vraiment, c'est. Regardez-le. Enfin, tous les films dont on va vous parler là dans cette émission, ce sera des regardez-le parce que c'est vraiment nos coups de cœur. Et...
à l'exception quand même d'un film qui est le film de clôture dont on a parlé de manière assez rapide dans l'intro.
Ouais, non, d'accord. Donc, tous les films dont on va vous parler à partir de oh yeah! À partir du jingle!
Ah, d'accord. Donc, oui, Young Ones, brièvement quand même, parce que c'est le film de clôture qu'on a vu samedi. Un film de Jake Paltrow, donc le frère de Gwyneth Paltrow.
On est vraiment obligé d'en reparler parce que Cataclysme parler. Pour la carrière de Michael Shannon, ça me suffisait, moi.
Il faut juste expliquer pourquoi est-ce que c'était à chier en dehors du fait
gros,
que
c'est
Shannon...
Ça se veut un western un peu dans le genre... j'ai envie de dire post-apocalyptique, mais c'est pas vraiment post-apocalyptique. Ça se passe
et c'est pas vraiment un western non plus.
Voilà, c'est exactement ça.
En gros, 20-30 ans dans le futur, les États-Unis ont commencé à avoir des grosses tensions à cause de l'eau et on suit le quotidien d'une petite communauté rurale dans ce qui est peut-être la Californie, le Nouveau-Mexique, l'ouest des États-Unis en tout cas, qui est dans
vraiment, moi je pensais que ça se passait dans le Colorado.
Non, il y a plus de montagnes que ça.
Oui,
au Colorado,
ça c'était une blague.
Bref.
Il y avait du pot partout en fait. C'était...
Quoi
c'est ça, il y avait du cannabis partout.
Voilà, oui.
Donc en gros, les.
Ce qui explique peut-être le film.
On suit une famille de paysans qui ne peut plus cultiver sa terre parce qu'il n'y a plus d'eau. doivent essayer de persuader, donc le père joué par Michael Shannon doit essayer de persuader des ouvriers qui construisent un pipeline à eau d'en détourner pour irriguer son village. Et le monde, tout le monde en fait, qui, où se déroule le film, est très très bien construit, c'est très intelligent. J'ai trouvé la façon dont c'était. C'est un futur qui est.
Mais qu'est-ce qui est arrivé à la femme ? Sérieusement, c'est quoi ? Je comprends pas la femme là, tu
non,
sais.
Il y a plein de, il y a plein de plot holes, hein. C'est,
voilà,
c'est
bourré, c'est plot holes the movie.
Oui. Bon, déjà, et puis donc, mais je peux finir ma phrase ?
Vas-y. Non, vas-y, tu vas-y, peux vas-y, pas, Antoine. On avait des choses à dire.
En fait, c'est un film dont le production design est excellent. Le quotidien, la vie quotidienne des gens dans un monde où l'eau est très rare et bien est intelligemment créé.
Du coup, c'est chiant.
Le côté futuriste est bien géré parce que c'est pas trop futuriste non plus. On ne vient pas dans des travers de voitures volantes à tout prix.
On y est presque.
L'éventail téléphone était quand même un peu too much.
Oui, l'éventail
téléphone. Bah, c'est des choses qui sont probables avec les technologies d'aujourd'hui quand même.
Oui.
Écran transparent, écran pliable.
Ouais. On verra si c'est manufacturable.
Dans 30 ans. Mais c'est ça qui était intéressant.
C'est en même temps, t'as une pénurie de l'eau et de la pétrochimie qui arrive à te sortir ça.
Alors, la pénurie de l'eau, elle est en l'occurrence dans le désert où ils vivent nos héros.
En même temps, si t'habites dans un désert, tu cherches un peu.
Tu cherches un peu la merde.
Mais, enfin, dans le.
Oh mon dieu, j'habite dans le désert, il y a une pénurie d'eau. Mais comment ceci est possible?
En fait, aussi, c'est ça. Ils veulent rester sur leur place, ils veulent pas forcément émigrer. Et on a une perspective assez intéressante parce que par un moment, le jeune héros va donc. Quitter le fils de Michael Shannon, va quitter temporairement sa région, puis va aller dans une plus grande ville. Et là, on voit qu'il n'y a plus de pénurie d'eau. On a énormément d'avions supersoniques qui survolent la région. Donc, on voit qu'il y a quand même un monde riche où il y a les moyens. L'état où vivent nos héros est quand même présenté comme étant un état d'émigration. Les gens veulent en partir. Donc, c'est quand même une perspective intéressante sur le futur des États-Unis. Maintenant, tout ça est gaspillé parce que l'histoire ne mène à rien, en fait. C'est vraiment une histoire de vengeance, de possession terrestre qui a été dite mille fois, et là c'est vraiment pas dit sur un ton inédit. Les personnages de Nicolas Hoult, qui est en fait un peu l'antagoniste du film, qui veut conquérir.
Ah, très, plein de subtilités son personnage, hein, vraiment.
Il veut conquérir la fille donc, de Michael Shannon, jouée par Elle Fanning, et puis Et en fait, tout le film tourne autour de lui, du personnage de Michael Shannon et du personnage du fils de Michael Shannon, et qui vont en fait. C'est une sorte de vengeance, de meurtre. Bah, ça se veut une fresque épique et ça donne rien, bah, en fait.
Non, parce que les motivations des personnages, elles sont pas du tout justifiées. Ce qui est censé être un dilemme moral ou une espèce de conflit est censé être un peu subtil sur les personnages qui sont censés être à la fois bons et mauvais. En fait, bah, sont mal écrits. Donc
mais c'est surtout
dommage.
Parce que les personnages sont mauvais.
Oui, voilà, non, mais enfin, c'est dramatique, mais là, c'est difficile, sans rentrer complètement dans les détails, de vraiment exposer pourquoi est-ce que c'est à chier. Mais quand t'as certains personnages qui auraient pu être plus subtils simplement en changeant une ou deux petites choses et qui ne le sont pas, et qu'on t'a dit, regarde le méchant, il est vraiment, vraiment méchant, juste parce qu'il est méchant. Enfin, ça n'a
oui,
aucun
sens.
Oui,
non, et pour le coup, il y a vraiment aucune subtilité dans la méchanceté des personnages, tu sais. C'est limite genre le type il lance des regards à la caméra en plissant les yeux en mode
mais tu vois, le père,
qu'est-ce que je vais faire ensuite.
Le père, ils auraient pu partir sur le fait que oui, d'accord, c'est le père de son fils, il veut ses plantations, donc il a raison d'être un peu violent, mais il est quand même un peu trop violent, il est peut-être un peu trop un par deux, enfin il est un peu trop intransigeant, et le fait que voilà, il lui arrive ce qui lui arrive, soit plus ou moins justifié ou soit plus ou moins discuté. Ça aurait pu peut-être être posé par le film, mais non, c'est juste
oui, non, le film se vautre dans les clichés, se vautre dans la mauvaise écriture, il se vautre de bout en bout.
Voilà, non, et puis il y a un moment de violence un peu gratuite avec quand un personnage se fait traîner de la charrette. en gros, on nous explique, regarde, le personnage est mort, il s'est fait tuer par machin est méchant, et ensuite 10 minutes après, de manière complètement gratuite, on te montre, regarde, il l'a fait souffrir, il a tué, enfin c'est,
on le savait déjà, quoi.
Ouais, voilà, enfin il y a pas besoin de rajouter.
Non, puis il y a cet aspect, c'est très dommage parce que le film, comme j'ai dit, le production design est formidable. C'est
formidable, n'exagère.
Ah non, moi j'ai trouvé ça formidable, sincèrement.
Le
côté de la.
Il est chouette, voilà,
mule,
ça, il est chouette.
La mule de remplacement pour. Bah, au début, ils ont une mule, une vraie mule, hein. Et après, ils achètent un robot qui est proche des.
Ça, j'ai une question. Si t'as pas d'eau, est-ce que t'es vraiment obligé d'avoir une putain de mule qui consomme de l'eau ?
Une mule consomme pas énormément d'eau, justement. Ah ouais ? Et par rapport aux ressources, je pense que les ressources liées à l'entretien d'un véhicule sont peut-être aussi importantes, au moins, que l'achat d'eau pour une mule. Donc c'est dommage, un production design, un setting qui je trouve intéressant, des problématiques qui pourraient être explorées et qui ne le sont pas, en fait, c'est très dommage.
Oui, c'est très dommage.
Oh. Bon, après Young One, c'est ce qu'on a vu.
Bah après, on a rien vu d'autre. On a eu droit à une exclusivité NIF.
Oui.
La présentation en première mondiale du trailer.
Du magnifique trailer de Viking Fensenbladen.
C'est Northmen, je crois que c'est ça.
C'est Northmen seulement?
En tout cas.
Ça avait l'air d'être beaucoup plus compliqué à écrire à l'écran.
Bagarre dans les montagnes, le film poncif.
Alors pour moi c'est un film. Un des membres du jury.
Historical Inaccuracies, the movie.
C'est ça, c'est drunk history mais pas drunk en fait.
C'est le film. Oh, j'ai vu que Vikings marchait plutôt bien en série. Et si on faisait un film là-dessus? Oui, non, parce qu'on va pas le mettre dans l'univers médiéval. Il y a déjà Game of Thrones et ce serait trop évident ce que t'as pompé. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent Vikings. Mais c'est quand même bien. Bon, allez, alors, on va faire ça sur les Vikings.
Le titre du film, ça s'appelle Northmen Viking Saga et c'est réalisé par le
réalisateur suisse. Oh non, saga, oui. Saga, non.
Bah oui, une saga.
En même temps, il y a un sous-titre, donc tu t'y attends bien. Enfin,
bah, et en même temps, saga, c'est une histoire de c'est un nom viking à la base. Hein, saga.
Oui, non, mais dans ma tête, saga, ça veut dire qu'il va y en avoir plusieurs.
Bah non, là, une saga, c'est une histoire.
Ah, d'accord.
De la même façon que bah, on a Lake Hill Saga.
Oui, non, mais tu sais, par exemple, The Twilight Saga.
Mmh. Oui, mais ça, c'est...
C'est parce que l'histoire est étalée sur plusieurs films.
C'est réalisé par le réalisateur suisse Claudio Fay et puis...
Ah merde.
Oui, c'est suisse en partie. C'est une coproduction suisse-américaine... non, pas américaine. Sud-africaine et allemande.
Waouh.
Ça se passe en Écosse. C'est une bande de vikings exilés qui se retrouvent en Écosse, qui prennent en otage la fille d'un roi et qui se font poursuivre par les hommes du dit roi qui veulent, eux, tuer la fille pour s'assurer que le roi n'ait pas d'héritier et pour pouvoir, je pense, suppose... prendre le trône à sa place. Donc en fait ils doivent défendre slash tenir en otage la fille et ils sont aidés par un moine par un merlin à eux,
par un moine ninja magicien,
voilà. Et moi ça m'a fait beaucoup penser au King Arthur d'Antoine Foucault en fait.
Tu sais ce qui m'a le plus énervé avec ça, c'est que après la cérémonie de remise des prix, il y a donc c'était le réalisateur qui est venu dire ça. Il est venu sur scène, il vous a dit alors on vous a réservé une surprise, on va vous passer la bande annonce, on va vous passer 10 minutes de mon futur film. C'est une sorte de trailer étendu. Putain, déjà les trailers en montrent trop. Là sérieusement, c'était, t'avais toute l'histoire, la seule chose qui te manque c'est la fin.
Ouais, ça donne pas très...
C'était le film sans les dialogues en fait.
Non, enfin, si, il y avait quelques scènes d'action, il y avait les gros moments du film qui étaient un peu révélés. Donc c'était un peu dommage déjà d'en montrer autant. Et en plus, ça n'avait pas l'air très. Alors les scènes d'action ont l'air pas mal, mais après, ça a l'air un peu.
Oui,
chiant,
visuellement,
quoi.
Ça a l'air cool. Sincèrement,
visuellement, ça a l'air très beau.
Après coup, je me suis dit, ah ben tiens, j'aurais plutôt maté Vikings, The Northmen Saga. Northmen, The Viking Saga.
Plutôt que Young Ones.
Plutôt que Young Ones, oui.
Bah oui, parce qu'il y avait un peu d'action, un peu bien filmé, que c'était très beau. Bon,
oui, visuellement,
Young Ones n'était pas moche non plus, mais Vikings,
ouais, non, mais
très,
Vikings c'était plus stimulant, on va dire.
Et puis les personnages, après l'histoire et le plot était un peu, ça a l'air de manquer un peu de profondeur pour le moins d'être assez classique. Donc c'était pas outrageusement.
Classique shit.
J'ai peut-être presque l'impression qu'on descend le film en avance, mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était pas très intéressant de nous montrer 10 minutes de ça.
Voilà, surtout que déjà on reproche toujours aux bandes annonces de trop en montrer, souvent à raison. Alors là, nous montrer 10 minutes de son film sur quoi, je pense qu'il va faire 1h30, 1h45 son film. Dude, what the fuck.
Mais c'était, honnêtement, moi ça m'a pas forcément donné envie d'aller voir le film à tout prix, mais je me suis dit, ah, tiens, pourquoi pas si je tombe dessus.
Ouais, tout à fait.
Si j'ai l'occasion, c'est un film, c'est très classique, mais pourquoi pas. D'ailleurs, c'est pas. C'est le genre de film que je regarde, il faut pas se leurrer quoi.
Oui, non, pareil, surtout si j'ai le temps de ça et Young Ones.
À noter que le héros du film est joué par Tom Hopper, qui est dans Black Sails en ce moment, où il joue Billy Bones, tu sais, le gars, le beau gosse qui est rival de Silver.
Oui, je vois tout à fait.
Et il était aussi dans Doctor Who, dans Merlin, donc c'est pas une star de petit écran, mais il est quand même assez connu si vous regardez un peu des shows britanniques. Donc voilà. Ça a l'air, moi c'est le genre de truc que je regardais si je tombe dessus quoi. Mais c'est vrai que c'était dommage de m'en montrer autant. Et brièvement, donc la cérémonie de clôture, on vous a fait les titres juste avant. En gros, des récompenses très méritées cette année, j'ai trouvé globalement. L'année passée, on avait été un petit peu déçus.
Cette année les récompenses, j'ai été ravie par les récompenses.
Brièvement, je reviens juste sur les courts métrages. Deux prix sont attribués au court métrage, enfin trois, mais deux sont en un. Le prix du meilleur court métrage suisse est allé à un film qui s'appelle Lothar. Je vous en avais parlé, c'est sur ce garçon qui ne peut pas éternuer parce que sinon, il y a quelque chose quand il éternue, quelque chose explose. Il a gagné non seulement ce prix et le meilleur argent du meilleur court métrage européen. Donc il sera nominé en course pour le Méliès d'or dont la remise aura lieu en Catalogne en octobre. Et un prix Taurus Studio à l'innovation est allé à Pape Cameradon qui est un film sur une foire. qui marche pas très fort et qu'un investisseur vient essayer de développer. Et en fait, ils achètent des attractions de plus en plus grosses, quoi. Mmh. Et c'est assez rigolo à voir, même si c'est très, très bizarre la façon dont c'est filmé. Donc, on vous l'a dit, le prix du public est allé à What We Do in the Shadows. On va vous en parler après de ces films, hein, parce que c'est tous plus ou moins des. À un moment ou un autre, c'est plus ou moins des films qu'on a beaucoup aimés. Le prix attaché du public à What We Do in the Shadows, c'est pas une grosse surprise. C'est un crowd pleaser, c'est un film qui va vraiment déclencher des rires dans une salle de cinéma.
Ouais, il y a 10 rires à la minute.
C'est vraiment, c'est un truc très efficace, quoi. Et je voyais mal quel autre film avait une chance, en fait.
Moi, sincèrement, j'aurais peut-être pensé à It Follows.
Ouais, mais c'est
ou limite
hermétique.
Housebound aussi.
Housebound à la limite, mais je l'ai pas vu en public, donc je peux pas vraiment dire. Mais It Follows m'a paru quand même un peu moins. Un peu plus hermétique comme film.
Ouais, je pense que
What We Do, qui est vraiment très facile d'accès et qui est vraiment très très drôle, quoi. C'est un peu comme Your Next, efficace, qui va générer une réaction
ouais,
massale.
Ouais, tout à fait.
Quoi. Et c'est le genre de film qui marche bien. Prix du meilleur film asiatique, Yasmine. Ça, c'était mérité parce qu'il n'y avait pas une sélection extraordinaire. J'aurais peut-être vu The Mole Song gagner, mais il était sélectionné en compétition internationale, donc pas en film asiatique.
Là, pour le coup, il n'y avait pas de prix pour les cours asiatiques. J'aurais bien vu un cours asiatique dans cette place-là. Malheureusement, c'était pas le cas.
C'est dommage qu'il n'y ait pas eu autant de prix pour les cours qui n'étaient pas suisses, en fait.
D'autant qu'il y avait beaucoup de sélections de cours cette année.
Voilà, It Follows pour le prix de la jeunesse, Denis de Rougemont, et le prix du jury de la critique internationale. Donc ça, c'était assez intéressant aussi de voir que ce film en a gagné autant. Le seul film que j'ai été surpris, qui n'a peut-être pas été beaucoup récompensé, en fait, c'était Honeymoon. Je m'attendais à ce qu'il ait quand même quelque chose.
Bon, alors sincèrement, Honeymoon, je l'avais mis dans ma liste de films sur lesquels je devais revenir. Je vais revenir dessus maintenant. J'ai trouvé tout ce qui était autour de l'histoire d'amour, de la relation de couple, très très bien fait, mais ça manquait d'une fin, quoi.
Ouais, c'est sûrement pour ça, en fait. Mais visuellement, je pense que c'était le genre de film...
Oui, visuellement, c'était assez envoûtant, j'ai trouvé.
C'était vraiment un genre de film qui aurait pu gagner quelque chose, je pense. Donc, je n'ai pas été surpris outre mesure, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je me disais, ah, peut-être ça va gagner quelque chose.
Visuellement, j'étais aussi surprise par l'absence de This Final Hours, mais comme ils l'ont dit, ils ont hésité pour je ne sais plus quel prix entre...
Ce prix-là, justement, en fait, entre...
It Follows,
pour le prix de la critique internationale, c'était entre This Final Hours et It Follows, il me semble.
Et je suis contente que ce soit It Follows qui ait gagné parce que This Final Hours, il était très beau, mais il était trop prévisible et il avait un personnage assez caricatural.
Imaging the Future, donc il y a un prix Imaging the Future au nom du symposium des images virtuelles qui a lieu au NIF chaque année. Et ce prix a été offert pour le meilleur production design, a été offert à The Mole Song de Takashi Miike. Donc ça, c'est pas une grosse surprise, c'est un film qui est assez beau, le production design très inventif, des costumes aussi bien que le look du film est vraiment très particulier. Ça me fait pas mal penser à Ace Attorney par moment, ce qui était pas mal parce que Ace Attorney était vraiment sympa ce côté-là. Donc ça, c'est pas une immense surprise, même si It Follows avait un très bon production design très particulier, mais aussi des Final Hours. Quant au Méliès, donc du film du meilleur long métrage européen. Alors là, du coup, c'est pas que la compétition internationale. Je m'attendais à ce que Calvary ait des chances pour en remporter, mais c'était Blind qui l'a eu finalement. Donc pas non plus une grosse surprise. Et je suis content, honnêtement, de la victoire de Blind. Enfin, finalement, pour le prix HR Giger Narcisse du meilleur film, là, Housebound, c'était quand même une petite surprise parce que c'est une comédie qui.
Ouais, mais il est vraiment.
Particulière.
Pardon. Oui, c'est une comédie, c'est particulier, mais en même temps, ça reste une comédie horrifique. Il y a eu des moments qui m'ont fait flipper. Et l'humour dedans est très efficace et quelque part plus intelligent et moins évident que celui qu'il y avait dans What We Do in the Shadows.
Oui, et puis bon, il y a aussi un côté vraiment très...
Et puis l'histoire est beaucoup plus travaillée, je trouve. C'était vraiment...
C'est très efficace, t'es vraiment sur...
Et les personnages
vraiment
sont...
en alerte pendant tout le film, en fait.
Les personnages sont, comme on l'a dit l'autre soir, plus fouillés que ce à quoi on peut s'attendre au premier abord. Non, vraiment, j'ai trouvé que ce prix était très mérité.
Voilà donc pour le palmarès du festival. On va peut-être faire une petite pause musicale.
On va faire une petite pause musicale et on se retrouve après avec nos coups de cœur de cette année.
We can
On est de retour donc pour vous parler de nos coups de cœur du NIF. On a chacun sélectionné 5 films, sauf erreur.
Un peu plus, mais vraiment, c'est les films qu'on vous recommande, en fait.
D'accord, alors moi, j'ai été professionnelle, j'ai fait un top 5. On va vous faire chacun notre tour, notre liste, les raisons de ses coups de cœur et tout ça. Donc, en cinquième position, j'ai mis Blind, pour les raisons déjà discutées auparavant. En numéro 4, j'ai mis What We Do in the Shadows, pour les raisons déjà évoquées auparavant dans cette émission. En numéro 3, j'ai mis Der Samurai qui nous racontait donc l'histoire d'un flic dans une petite bourgade qui passe une nuit à poursuivre un samouraï vêtu d'une robe de mariée qui sème la terreur donc dans cette ville, dans cette petite bourgade. Et c'est un film très très beau qui a un sous-texte sur la répression des désirs, sous-texte où vous pouvez choisir de voir comme s'appliquant uniquement aux désirs homosexuels, mais qui pour moi peut être totalement universel. Et oui, visuellement, c'est envoûtant. Le terme envoûtant va revenir également pour mon film numéro 1. Donc là, je vais passer au numéro 2 parce que je suis très structurée comme personne. En numéro 2, j'ai mis Housebound. Pour les raisons évoquées plus tôt dans cette émission, c'est drôle, les acteurs sont très bons, tous les rôles sont solides, il n'y a pas un seul personnage qui est juste caricatural for the sake of it. C'est un film à voir et je pense que je le ferai voir à d'autres personnes et du coup je le reverrai avec eux. C'était une pure partie de plaisir. Et donc en numéro 1, j'ai mis It Follows, c'est mon énorme coup de cœur du NIF. J'avais adoré The Myth of the American Sleepover, qui était le précédent film du réalisateur. J'ai trouvé ça une brillante mise en scène des peurs qu'on peut avoir en tant qu'adolescent, une atmosphère un peu hors du temps qui est envoûtante, comme je l'ai dit plus tôt. Non, vraiment, c'est un film qui m'a séduite sur tous ses aspects, qui m'a fait peur. Mais pas en mode jump scare, c'est vraiment quelque chose qui m'a, une peur qui s'est insinuée en moi et qui m'a maintenue pendant tout le film. C'était oppressant et en même temps très agréable à voir. C'était une expérience, quoi. Donc voilà, je vais passer la parole à Antoine pour ses films préférés du NIF.
Alors moi, je vais d'abord vous faire quelques petites recommandations, si jamais par-ci par-là. Du côté des films asiatiques, j'ai beaucoup aimé The Mole Song de Takashi Miike, ainsi que Young Detective D de Tzu Hark. Il y a aussi Yasmine qui a gagné le prix du meilleur film asiatique. Le film, donc, on en a brièvement parlé hier avec Yann, hein, c'est un film du Brunei sur une comédie d'arts martiaux très américaine, mais très très bien, très très efficace, très très bien tourné. J'ai beaucoup aimé Short Peace, It Follows aussi comme Aisha. Under the Skin, le film avec Scarlett Johansson en Alien, m'a beaucoup intrigué. J'ai réfléchi un peu pendant tout le festival et j'en suis venu à la conclusion que j'avais plutôt bien aimé, mais que c'était très lent. Mais c'est très beau. Il y a pas mal de sous-textes assez intéressants, mais c'est lent. Mais une fois que plus j'y repense, plus je me dis qu'il faudrait peut-être que je le revoie. Donc vraiment, je le mets dans cette liste. Et j'ai beaucoup aimé Stage Fright aussi.
Ah oui, Stage Fright, je suis d'accord avec toi.
Comédie musicale, j'adore les comédies musicales, donc c'est vite gagné pour moi.
Mais pour le coup, Stage Fright plutôt sur sa première demi-heure que sur la suite.
L'aspect final est aussi rigolo pour le côté vraiment un peu n'importe quoi de la fin, quoi. Et sa dernière jumpscare qui est très très bien faite dans Stage Fright.
Oui, tout à fait.
J'ai bien aimé It Follows aussi, mais pas autant que toi, peut-être Aïcha, mais j'ai bien aimé. J'ai aussi apprécié sans beaucoup plus White Bird in the Blizzard. Mais pour en venir au film que j'ai vraiment, vraiment adoré, Sniff, je les classe à peu près en... Il y en a quatre. Les trois premiers sans ordre vraiment particulier. Je vais commencer par What We Do in the Shadows, que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est très, très drôle, c'est léger, c'est très plaisant à regarder. C'est un concept qui est assez rigolo, qui est exécuté à la perfection. Le production design est fantastique aussi. Tous les acteurs sont très, très bons. Vraiment excellent et drôle. Peut-être le plus drôle du NIF pour moi. Même si ça vole parfois pas très haut, mais il y a des situations extrêmement drôles.
Oui, mais c'est pas un problème que ça vole pas très haut, parce que c'est pas un film dont on attend qu'il vole très haut. Ce qu'on attend, c'est une avalanche de blagues, et pour le
et
coup,
voilà,
c'est
et
exactement
même qu'il y a
ce qu'on a.
Une blague qui tombe un petit peu à plat, il y en a une excellente qui suit 6 secondes après. Donc,
il y a énormément de blagues excellentes. Enfin, ça m'énerve parce que quand je l'ai vue, j'étais là, oh putain, cette blague, faut que je la retienne parce qu'elle était géniale. Et il y en a tellement de géniales que je les ai oubliées, quoi.
What in the Shadows, donc, Housebound et Blind, qui sont presque sur un pied d'égalité pour moi. Blind, pour son aspect visuel, pour son aspect narratif très très poussé, très intelligent, c'est le genre de truc qui ce genre de film est le genre de film que j'adore par défaut, donc c'est évident que ça va être un film pour moi.
Ouais, voilà, là-dessus, je pense que Blind, ça a été un peu ton It Follows pour moi, parce que c'est des trucs auxquels on répond. Enfin, je pense que toi, non, tu réponds plus à ce type de film, et moi, c'est.
Je sais pas, c'est peut-être, il y a peut-être de ça, mais c'est pas mon gros coup de cœur, Blind, hein, pour moi.
Non, non, mais je pense, enfin, c'est des sensibilités.
Oui,
c'est ça
sensibilité
que je voulais dire
à ce sens-là.
Moi, c'est une sensibilité que j'ai par rapport à It Follows et à ce genre de thème, et toi, c'est une sensibilité que t'as, Blind.
Housebound, je pense que c'est le film qui m'aura en tout le fait le passé, C'est un des films qui fait passer un bon moment, quoi. C'est vraiment un condensé de tout ce qui est bon dans le cinéma, Housebound, pour moi. T'as du fun, t'as des rires, t'as aussi des moments où tu es un peu effrayé, où tu sais pas à quoi t'attendre, t'as de l'inattendu.
Et so- ouais, voilà, c'est ça, c'est l'inattendu. L'inattendu, c'est le point fort. Enfin, il y a énormément de points forts à Housebound, mais le plus fort, c'est que tu peux pas t'attendre à ce qui vient. Enfin, c'est à chaque. Enfin, c'est pas des gros twists à la Cabin in the Woods, c'est vraiment que. À chaque fois que tu penses que le film va prendre, enfin, à chaque fois que le film s'inscrit dans une direction, il finit par en prendre une autre, et c'est ça qui est jouissif, c'est que.
C'est vrai que Housebound mérite d'être dithyrambique dessus.
Tout à fait.
Non, mon top 1, par contre, à moi, c'est Calvary.
Et là, ton top 1, ton numéro 1.
Ouais, bon, enfin, mon numéro 1, c'est Calvary. La personne va venir me intervenir parce que je suis le seul à l'avoir vu. Mais c'était vraiment mon film préféré cette année. J'étais absolument épaté par ce film. C'est chargé émotionnellement, c'est drôle par moments, c'est tragique, c'est superbe, c'est bien joué par tout le monde, c'est vraiment un cast incroyable. Vraiment, le genre de film... c'est un film assez classique, là où Housebound vraiment, est presque vraiment très innovant. Calvary est moins innovant, mais est exécuté avec une perfection telle que enfin voilà, je suis vraiment j'ai juste passé mon film limite en train de j'arrive pas à trouver des mots, quoi, pour décrire la sensation que j'avais pendant ce film, parce que c'était vraiment quelque chose de très profond qui te touche beaucoup, qui te prend vraiment puis qui te lâche pas, quoi.
J'avoue, de ce que j'ai vu de Calvary, j'ai particulièrement apprécié. J'ai dû sortir au bout d'assez peu de temps de film finalement, mais ce que j'en ai vu, c'est vrai que c'était très très bon.
Poignant, émotionnel, bref, le genre de film qui marche très bien en général. C'est un film qui est assez, j'ai pas envie de dire universel, mais qui est d'un classicisme peut-être plus marqué que Housebound, mais vraiment mon gros coup de cœur pour ce NIF. Puis bah Yann, parle-nous un peu de tes coups de cœur.
Mais oui, oui, oui. Alors du coup, dans le mien, alors ça reflète aussi un peu, voilà, nos préférences, qu'on est allé voir. Et dans ma liste, il y a du court, il y a aussi du docu. Donc, dans le top 5, on va commencer par le numéro 5. J'ai particulièrement apprécié The Go-Go Boys. On en a parlé dans la précédente émission. Sauf erreur, c'est ce documentaire sur les faux cousins Golan et Globus qui ont créé la Canon International, donc cette espèce de compagnie qui a produit de nombreux, nombreux films d'une qualité, on va dire, assez contestable. Et moi, enfin voilà, ce genre de documentaire-là qui raconte quelque chose sur un sujet où je me posais beaucoup de questions, c'est pourquoi est-ce que ces films sont là? Pourquoi est-ce que ces films des années 80-90 sont sortis, qu'ils en ont apparemment vendu autant? Comment est-ce que ça se fait qu'ils leur en recommandaient à la même boîte alors qu'ils n'étaient pas de grande qualité? On a les réponses à ça, on sait un peu comment ça s'est passé, d'autant plus que c'est une histoire israélienne, donc on regarde un peu comment est le cinéma là-bas. Donc ça permet vraiment d'avoir ce point de vue vraiment, comment dire, vraiment...
explosif.
Différent sur le cinéma aussi, tout simplement. En short, ça va être mon numéro 4, c'était Memory Sculptor, qui était dans les shorts du Japon imaginaire, si je ne fais erreur. Et alors pour le coup, le pitch est vraiment à la Inception, c'est-à-dire que bon, on va dire, on va aller modifier la mémoire des gens, sauf que là, voilà, on va dans la tête des gens, mais au lieu on va triturer leur mémoire plutôt que leurs rêves. Et je conviens totalement sur le fait qu'au niveau de l'idée, c'est absolument éculé, etc., etc. Mais il y avait une esthétique, il y avait une action qui était folle.
J'ai une question à te poser par rapport, ouais, à ça, au triturage de mémoire. T'as joué à To The Moon?
Non, mais j'en ai entendu beaucoup de bien.
Parce qu'en fait, justement, quand tu me pitches ça, ça me fait beaucoup penser à To The Moon, qui est un petit jeu...
Qui est indépendant, mais indépendant, oui, occidental, ce fait. Hein.
Voilà, oui, pour le coup, oui.
D'accord, bah j'irai voir.
Mais du coup, ça m'intéresse, tu m'as intéressé pour ton film, parce que ce jeu vidéo m'avait beaucoup plu.
Ouais, après voilà, ça va pas encore une fois excessivement loin, mais il y a vraiment une action, un esthétisme, et il y a vraiment quelque chose derrière ce short. Enfin, il m'a vraiment plu pour ça. Un autre short qui m'a plu, c'est I Baby, qui là aussi part d'une idée très simple, qui est qu'un couple a un enfant qui est en fait un robot super évolué. L'enfant peut d'ailleurs vieillir, etc., etc. Il peut atteindre, je crois, ce fait jusqu'à l'âge de 10 ans, ensuite il reste dans le même état. Et ça part de là, et ça raconte une petite histoire. Et cette petite histoire est très intéressante, non seulement sur notre rapport par rapport aux machines, mais aussi sur le rapport des parents par rapport à leurs enfants. J'en dis pas plus, vous pouvez le trouver sur YouTube, allez le regarder. En second, toujours dans l'histoire du genre, Beyond Clueless, qui était très très bien, qui était voilà, un montage de différents extraits de teen movie, qui glissait aussi souvent dans le fantastique d'ailleurs, et qui racontait un peu pourquoi, comment ces teen movie sont construits, notamment tout le rapport que ça a par rapport à la sexualité, au début de la sexualité. C'est donc vraiment des morceaux de films entremêlés, il y a une voix off, et derrière, voilà, tout simplement, c'est très bien fait, sans pour autant faire gros catalogue. On te donne des références, mais pour autant, on ne te noie pas dessous, ce qui est quand même assez, assez malin.
Si je peux rebondir sur Beyond Clueless, ouais. C'est un film, je pense, qui... moi, justement, ce que j'ai préféré dans ce film, c'est le montage des extraits, parce que pour moi, la voix off, pour le coup, était peut-être un petit peu trop...
présente ?
Non, pas trop présente, mais trop banale dans ce qu'elle racontait. C'était des choses qui étaient assez évidentes. Enfin, en tant que grosse amateur du genre, c'est des choses que... des réflexions que j'avais déjà eues, des choses que j'avais déjà remarquées, du coup. Je voulais justement dire par rapport à ça que les gens accros au genre et qui connaissent très bien le sujet peuvent tout à fait y trouver leur compte, simplement parce que le montage des différentes séquences reste absolument jouissif à redécouvrir.
Voilà, donc c'est quand même plus prévu pour les débutants, pour les novices, même les personnes qui sont assez expérimentées dans le domaine peuvent
apprécier le film. Chacun peut y trouver son compte, voilà. Peu importe sous quel angle tu l'abordes. Et je pense que du coup, pour le coup, c'est vraiment un documentaire qui s'adresse à la fois aux gens calés sur le sujet et à la fois au public totalement novice.
Honnêtement, si ça ne passe pas sur Arte, je ne comprends rien. C'est-à-dire que c'est fait pour passer sur Arte à 22h. C'est juste nickel. Je vois déjà la bande-annonce. Enfin, c'est juste prévu.
Non, oui, et puis c'est un film qui a été fait, qui est parti d'un Kickstarter, en fait. Ouais. Et le type derrière... un documentaire. Le type derrière, justement, est un... je crois qu'il a... bah, il a le même âge que moi, 23 ans, sauf erreur. Et il écrit pour des journaux britanniques et tout ça. Et je suis allée lire un peu ce qu'il faisait et c'est très intéressant. Charlie Lean, vous pouvez le retrouver sur Twitter et sur plusieurs... sur Twitter, vous aurez les liens de tout ce qu'il a fait. Plongez-vous là-dedans, c'est vraiment quelqu'un de très intéressant à lire et à regarder.
Alors pour le numéro 1, j'hésitais entre deux choses, parce que le problème, c'est celui que j'aurais voulu mettre en numéro 1, Chasing Amy, est un peu... c'est un peu lapidaire de le mettre là, parce que techniquement, il fait partie de la carte blanche donnée à Kevin Smith.
Non, la rétrospective Kevin Smith.
La rétrospective Kevin Smith. Donc...
mais moi, je suis pour Chasing Amy en numéro 1.
Voilà, donc pour le message qu'il donne, pour les personnages, même si les personnages sont parfois un peu antipathiques, les situations sont vraiment intéressantes, le message donné est vraiment bien, donc regardez-le, je pas trop développé dessus. De toute façon, c'est vraiment un film qui est sorti à un bon moment.
L'histoire d'Amy, enfin...
Oui, bien sûr.
Voilà,
c'est un bon film et ça m'a vraiment surpris. Je veux dire, on nous montre une Comic-Con et pourtant, c'est pas railleur contre l'univers comics, par exemple. Ce qui est vraiment appréciable aussi, c'est que c'est vraiment du bon côté.
En même temps, c'est Kevin Smith aux commandes. Hein, ça bien va sûr. Pas être railleur contre l'univers comics.
Non. Évidemment, mais ça fait quand même plaisir à voir. Ça fait quand même plaisir à voir quand on te parle de... Enfin, aujourd'hui, quand on te parle du Comic-Con, quand on te montre le Comic-Con, on va vraiment se foutre de la gueule du truc, on va le tourner en dérision. Là, pas vraiment. Là, c'est plutôt les personnages, c'est plutôt les méthodes marketing qui peuvent être ridiculisées, pas directement l'événement en lui-même ou la culture en elle-même. Donc voilà, Chasing Amy pour le rapport entre les personnages, pour le rapport à l'homosexualité, pour le rapport à plein de choses, vous devez le voir. Et en numéro 1, effectivement, Housebound, qui est le premier film que j'ai vu en arrivant ici, qui m'a beaucoup plu. Je suis pas à fond dans le film de genre, je dois l'admettre, mais il m'a vraiment plu et je le place en haut de la liste parce qu'il le mérite. Vous avez déjà tout dit dessus. Dans ceux qui auraient pu être dans cette liste, mais il y avait 5 places, il y avait aussi le short de Great Escape from Cafe City, Short Piece qui était aussi très sympa, What We Do et Ping Pong Summer dont on a parlé plus tôt. Donc référez-vous soit plutôt dans l'émission, soit aux émissions précédentes.
Bah voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour de notre
très belle technique de 2014. Très belle technique de notre producteur pour vous faire écouter nos émissions précédentes.
C'est vrai qu'on n'a pas, on a pas beaucoup parlé de Housebound ou de Calvary par exemple. J'ai pas beaucoup décrit Calvary ici. On en parle surtout dans notre deuxième numéro débrief qui est paru samedi matin. Mais écoutez aussi l'interview de Kevin Smith par Aïcha qui est très intéressante. écoutez aussi notre bref récapitulatif des films qu'on a vus. On y parlait notamment de Beyond Clueless, paru le mercredi matin. Et puis, alors voilà, le thème unificateur. J'ai mis des titres toujours avec The One pour ces émissions parce que je trouvais que on est plusieurs dans le studio. Ça fait un peu sitcom, comme tu l'avais dit, Aïcha, l'autre jour. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé ce thème unificateur. Je ne sais pas quel sera celui de ce bilan final.
The One with the Zombie Apocalypse in Neuchâtel.
Ou The Final One. Non, c'est trop lapide.
Final One, ça fait un peu fin de saison, au revoir, on plie la boutique. Hein.
Bah oui, alors c'est parfait.
Mais c'est aussi notre fin de saison finalement officielle.
On
va pas encore faire beaucoup d'émissions en juillet.
Donc c'est la dernière émission de la saison. On vous dit au revoir, on vous fait des bisous comme d'habitude.
Oui. Et on se retrouve l'automne.
Quoi ?
On retrouvera à l'automne.
Oui, on vous retrouve à l'automne pour une saison 4 qu'on espère aussi géniale
que celle de Community.
Fils de... We'll be together again.